Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours, le magazine qui vous propose un retour sur l'actualité africaine de la semaine. À la présentation, Eric Topona et je ne suis pas seul. À mes côtés, Philippe Poyan. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Et si vous êtes dans ce studio, eh bien c'est pour l'Afropresse, la revue de presse allemande. Quels sont les sujets qui ont retenu votre attention ?
Eh bien, nous avons retenu d'abord la modernisation technologique au Kenya qui a fait d'énormes progrès ces dernières années. Et puis, nous parlerons aussi d'un livre sur l'Afrique.
Voilà, nous restons donc sur notre fin. À tout de suite, Philippe.
À tout de suite.
Afrique 7 jours, c'est également votre rubrique Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs francophones. Et cette semaine, nous recevons le blogueur tchadien Evariste Dieteke. Il sera en ligne de Dakar au Sénégal avec Bonfils Bayingana. Nous commençons ce kaléidoscope de l'actualité par la République centrafricaine avec cette question. Les élections auront-elles lieu à la fin de cette année après la prorogation de la durée de la transition? La question divise, en tout cas dans le pays. Et du côté de l'Agence nationale des élections, on se veut rassurant. Dieudonné Kombo Yaya est le président de cette institution.
J'avais fait un exposé devant la commission gouvernance du Forum national de Bangui qui a fait des recommandations à la plénière et la plénière a décidé que les élections auront lieu d'ici la fin de l'année 2015 parce qu'il faut organiser les élections pour un retour à la légalité constitutionnelle mais dans des conditions acceptables. Il y a quelques poches d'insécurité que les autorités gouvernementales et la communauté internationale s'efforcent d'éradiquer. Il faut également que tous les moyens financiers soient mis à la disposition de l'autorité nationale des élections. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut qu'un certain nombre de moyens minimums soient réunis.
Dieudonné Kombo Yaya, le président de l'Agence nationale des élections en République centrafricaine. De la RCA, on marque un arrêt au Burundi où le parti au pouvoir prépare l'investiture de son candidat. Pierre Nkurunziza, réélu à l'issue d'une élection présidentielle controversée, c'était le 21 juillet dernier. Ce qui suscite cette question, Pierre Nkurunziza a-t-il gagné la partie? Écoutez l'analyse qu'a faite sur nos antennes mardi dernier Nadia Nsaï, spécialiste de la région des Grands Lacs à l'ONG Pax Christi, une ONG basée à Bruxelles, en Belgique.
C'est vrai que les résultats officiels en fait, nous annoncent que Nkurunziza a gagné les élections présidentielles et législatives. Mais c'est aussi un fait que beaucoup de bailleurs ou beaucoup de pays en fait, n'ont pas reconnu les résultats de ces scrutins et qu'ils continuent en fait, à répéter qu'ils ne vont pas juste en fait, reprendre la coopération avec le pouvoir à Bujumbura. Beaucoup de gens de la société civile ont dû quitter le pays. L'opposition est affaiblie. Le grand opposant Agathon Rwasa est entré en fait dans le système, mais je ne pense pas que le jeu est déjà joué en fait.
Voilà, c'était Nadia Nsaï, spécialiste de la région des Grands Lacs à l'ONG belge Pax Christi. Nous terminons ce tour d'horizon des faits marquants de l'actualité africaine de la semaine par le Burkina Faso, où dans deux mois devrait avoir lieu le premier tour de l'élection présidentielle du mois d'octobre. Mais à l'approche de cette échéance, eh bien, certains analystes demeurent perplexes. C'est le cas d'Ali Sanou, il est le secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
Nos acteurs politiques qui se disent démocrates n'ont pas les réflexes démocrates assez développés. Parce que être démocrate, c'est accepter qu'on a perdu. Aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir que toutes les forces politiques qui vont aux élections accepteront docilement qu'elles ont perdu, si, lorsqu'elles perdront éventuellement. Mais c'est aussi le rôle de la société civile qui ne doit pas être partisane et qui doit se dire que le plus important, c'est la stabilité et la paix dans le pays. Tous les partis politiques qui postulent pour ces élections n'ont pas un programme de société, un projet de société qu'ils mettent en avant qui est capable de régler la question du sous-développement de notre pays.
Ali Sanou, le secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Dans un instant, c'est la rubrique Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs francophones, notamment africains. Et comme je vous l'ai promis, Bonfils Bayingana reçoit ce soir un blogueur tchadien, son nom Évariste Diétéké.
Blogosphère. Bonsoir Évariste Diétéké.
Bonsoir à vous aussi.
Pour l'instant, au Tchad, on parle d'une arrestation d'une trentaine de représentants d'un syndicat étudiant réuni en N'Djamena. Quelles sont les raisons de cette arrestation?
Depuis un certain moment, le régime a créé des instituts universitaires, une bonne quinzaine à travers le pays, sans que les moyens ne suivent. Il n'y avait pas de mesures d'accompagnement qui suivent la création de ces instituts universitaires. Alors ces instituts manquent de tout. Des ressources humaines, aussi bien que des ressources financières. Et ces étudiants, ceux du premier cycle, attendent depuis 6 mois leur bourse. Ceux du second cycle attendent depuis 6 mois leur bourse et ceux du premier cycle depuis 12 mois. Et en désespoir de cause, les étudiants sont en train de préparer une grève générale et c'est à cette occasion qu'ils ont été arrêtés. C'est pour étouffer dans l'œuf la grève que les étudiants préconisent d'organiser dans les jours à venir.
Vous avez évoqué le chef de l'État, c'est aussi notre sujet qui fait à la une au Tchad. Donc, il y a la dénonce de l'opposition sur la déclaration du chef de l'État, Idriss Déby, en disant qu'il ne peut quitter le pouvoir dans les circonstances actuelles. Et comment expliquez-vous cette situation, Évariste?
À l'exemple des présidents comme Mobutu, comme Idi Dada et peut-être récemment Blaise Compaoré, Déby pense qu'il est le seul capable de trouver les recettes miracles pour gérer le Tchad. Cette déclaration est un manque de respect au peuple tchadien. Après 25 ans de pouvoir, il n'arrive pas à régler les problèmes prioritaires, les problèmes élémentaires. C'est pas 5 ans, 10 ans après qu'il y aura les moyens pour les régler. Aussi, il faut reconnaître que Déby a en face de lui l'un des peuples les plus résilients d'Afrique. Les Tchadiens n'ont pas cette capacité de réaction pour faire réfléchir le président. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il se permet de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut.
Merci beaucoup, Évariste.
Merci à vous et à bientôt.
Place maintenant à l'Afropresse, le commentaire de la presse allemande sur l'actualité africaine. Et parmi les thèmes africains commentés cette semaine dans les journaux allemands, eh bien, il y a la modernisation technologique au Kenya, entre autres, hein, Philippe.
Oui, après le succès de logiciels lancés en 2007 comme M-Pesa, système de microfinancement et de transfert d'argent par téléphone mobile, et l'application Ushaidi, plateforme mobile et web qui permet de créer, visualiser et partager des histoires sur une carte, eh bien le Kenya a connu ces 5 dernières années de plus en plus de créations dans le domaine des technologies de l'information. Selon le quotidien Frankfurter Rundschau, le Kenya semble bien décidé à faire concurrence à l'Afrique du Sud comme pays leader de la technologie sur le continent africain. Depuis qu'en 2009, un câble à fibre optique sous-marin a amené au Kenya des connexions Internet rapides, le pays a attiré de nombreux investisseurs parmi les grands noms de la branche Google, Oracle ou bien IBM, pour n'en citer que quelques-uns. Les principales universités de la capitale, Nairobi, disposent de laboratoires technologiques et le gouvernement veut équiper les écoles du pays de 1 300 000 ordinateurs portables. En outre, il prévoit de financer chaque année la création de 50 start-ups, des jeunes entreprises technologiques, et d'attirer encore plus d'investisseurs étrangers grâce à des avantages fiscaux. Parallèlement, le pays investit 13 milliards d'euros dans un projet modèle baptisé Kwanza Techno City, une ville futuriste hautement technique non loin de Nairobi et qui devrait créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Une histoire à succès, donc, conclut l'éditorialiste.
Et Philippe, vous avez également retenu un autre thème, un livre sur l'Afrique de l'écrivain Lutz van Dijk, un livre intitulé « L'Afrique, un continent bigarré ».
Oui, la Süddeutsche Zeitung en fait une critique élogieuse. Lutz van Dijk parle de nos ancêtres communs qui vivaient autrefois sur le continent africain. Il parle aussi de l'esclavage au XVIIe siècle ou bien encore de l'élan de renouveau qui se fait sentir dans plusieurs régions d'Afrique dont la moitié des habitants ont moins de 18 ans. L'histoire de l'Afrique est celle d'un continent aux multiples facettes et c'est aussi l'histoire de l'humanité. Nous venons tous d'Afrique. Le réfugié d'Érythrée, l'étudiant de médecine du Ghana, le président Barack Obama. Oui, même Angela Merkel vient, à l'origine, d'Afrique. Le livre rappelle ses racines communes qui remontent à 2 millions d'années. Avec les ancêtres de l'homme moderne, l'Homo habilis, qui utilisait habilement des outils, et puis l'Homo erectus, qui a commencé à marcher droit, et après eux, a suivi l'Homo sapiens, qui a élargi et utilisé ses connaissances. Un petit groupe d'entre eux, environ 2000 individus, ont quitté l'Afrique il y a 100 000 ans, pour rejoindre l'Asie, puis l'Europe. Celui qui a une peau claire aujourd'hui est un descendant de ces migrants africains. Il est un fait que cette origine commune ne joue plus aucun rôle. Aujourd'hui, il existe des nationalités, des frontières, des barrières, des milliers de langues et de dialectes, toute une palette ethnique et culturelle, chacun a sa patrie. Mais l'histoire de l'Afrique au cours des siècles passés montre bien à quel point ces frontières géographiques ont été tracées de manière arbitraire. Comment une ethnie peut être réduite à l'esclavage et à quelle vitesse une patrie peut être détruite, relève la Süddeutsche. Mais dans son livre, où il donne la parole à des élèves, des étudiants, des écrivains qui commentent l'histoire de leur continent, Lutz van Dijk montre aussi de manière positive une autre Afrique consciente d'elle-même, optimiste et tournée vers l'avenir.
Un livre à lire donc à tout prix. Merci beaucoup Philippe Poyen pour l'Afropresse et je vous souhaite une bonne fin de week-end.
Merci à vous et bon week-end à tous nos auditeurs également.
Et c'est bientôt la fin d'Afrique 7 jours. Merci à tous de l'avoir écouté. Eric Topona à la présentation et je vous laisse en compagnie du reste des programmes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande.